Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce lundi 20 septembre et à la une, mobilisation devant le tribunal correctionnel de Gap à l'appel de la FDSEA et des JA. Une trentaine d'éleveurs s'est réunie en soutien en début d'après-midi. L'un d'entre eux était jugé pour 4 faits de blessures involontaires à Seillac. Ces chiens de protection ayant mordu des touristes. Les chasseurs ont envahi les rues de Fort-Calquier samedi. Ils étaient près de 8000 à s'être donné rendez-vous face à l'interdiction de certaines techniques de chasse. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait des arrêtés pour rétablir certaines pratiques. Le port du masque, encore obligatoire dans les Hautes-Alpes, dans certains lieux, après un nouvel arrêté préfectoral. L'obligation est levée dans les zones de centre-bourg et centre-ville ainsi que dans les zones naturelles. Le taux d'incidence est de 98 pour 100 000 habitants. Sept artistes internationaux au Street Art Festival de Briançon. Grâce au graphe, ils vont magnifier certains lieux de la ville. Une collaboration de la municipalité et de l'association Éternelle Crapule. Un éleveur devant la justice à cause de ses patous. Convoqué cet après-midi par le tribunal correctionnel de Gap, cet agriculteur de Seillac doit répondre devant le juge de 4 accidents survenus les 16, 25 et 27 juillet, ainsi que le 11 août où ses chiens de protection avaient mordu des touristes en randonnée. Une comparution pour blessure involontaire qui a provoqué la mobilisation des JA 05 et de la FDSEA des Hautes-Alpes pour soutenir leurs collègues. Une trentaine d'agriculteurs étaient présents. Ils ont déposé 10 agnelles prédatées dans la nuit de dimanche à lundi à la Bativieille devant le palais de justice, mais aussi la préfecture des Hautes-Alpes. Alors que l'État oblige les éleveurs à avoir des chiens de protection pour être indemnisés en cas d'attaque sur leur bétail, Édouard Pierre, président des jeunes agriculteurs 05, souhaite que ce dernier prenne ses responsabilités pénales.
Les mesures de protection, elles sont rendues obligatoires par l'État si on veut être indemnisé. Et les chiens de protection font partie de l'arsenal disponible. Sauf que c'est encore l'éleveur qui trinque parce que c'est lui qui s'occupe des chiens, c'est lui qui les élève et c'est lui qui endosse la responsabilité s'il y a problème. Et là, visiblement, il y a eu problème et donc il est convoqué devant le juge. Il ne faudrait pas non plus que ça fasse jurisprudence et que demain, chaque personne qui se promène dans l'alpage et qui se fait courser par un patou, parce qu'il y a aussi des choses à respecter quand on croise des chiens de protection, choses qui n'ont pas forcément été respectées sur ce dossier. Alors, on va gagner de l'argent à aller mettre les éleveurs au tribunal. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que l'État prenne ses responsabilités. On nous oblige à mettre des chiens. À ce moment-là, l'État a qu'à endosser la responsabilité pénale si les chiens font des dégâts sur les promeneurs, les randonneurs, les VTT.
Avec 15 loups prélevés dans le cadre de tirs de défense depuis le début de l'année, les éleveurs se sentent malgré tout toujours démunis. Ils demandent une véritable politique de régulation de la population lupine, avec notamment la sollicitation plus accrue des louvetiers. Près de 8000 chasseurs dans les rues de Fort-Calquier samedi, une manifestation pour défendre les chasses traditionnelles comme celle des oiseaux jugée illégale par le Conseil d'État et donc suspendue. S'ils n'ont pu rencontrer le député des Alpes-de-Haute-Provence, Christophe Castaner, ce dernier a assuré s'être emparé du sujet. Il a adressé par courrier une réponse à la Fédération régionale de la chasse. Le principe d'une réunion à l'Assemblée nationale a aussi été acté en présence du président régional PACA et du président national des chasseurs. Notez également que le gouvernement a annoncé qu'il prendrait des arrêtés pour rétablir certaines pratiques. Le port du masque toujours obligatoire dans certains lieux dans les Hautes-Alpes. Un nouvel arrêté a été pris par la préfète. Il est entré en vigueur samedi. Le port du masque doit être conservé lors de marchés de plein air alimentaires et non alimentaires, lors de brocantes et vides-greniers, de foires, de fêtes foraines, mais aussi lors de rassemblements, manifestations sur la voie publique, festivals et lieux soumis au pass sanitaire. Notez que les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation d'alcool sur la voie publique restent interdits. Toutefois, l'obligation du port du masque est levée dans les zones de centre-bourg et centre-ville ainsi que dans les zones naturelles. Concernant le taux d'incidence, il est de 98 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est de 1,8%. Quant au taux de vaccination, 65,1% de la population du département dispose d'un schéma vaccinal complet. 69,9% ont reçu au moins une injection selon la préfecture. Ambition pour Gap voit dans la navette Néa une aberration et un gâchis d'argent public. Une navette qui a officiellement été lancée ce lundi, mais selon l'association citoyenne, des conflits d'usage vont certainement se produire. Alors que la navette va circuler sur la piste cyclable la plus empruntée de Gap, l'association craint des accidents entre cyclistes et piétons lorsque les cyclistes tenteront de doubler la navette. Autre point de crispation, le coût. Un investissement de 327 000 euros avec près de 50 000 euros pour son exploitation. Un gâchis de fonds publics locaux et européens selon Ambition pour Gap, car il s'agit d'une action isolée. Fin de citation. Au plus près des Dinois, tel est l'objectif des journées citoyennes organisées du 22 au 25 septembre par le Conseil citoyen politique de la ville. Elles ont pour but d'informer sur plusieurs thématiques comme la santé, l'accès aux droits, les services ou encore l'emploi. C'est la troisième fois qu'un tel dispositif est mis en place. Pour rappel, le Conseil citoyen est l'instance qui permet aux habitants et acteurs du quartier centre-ville pigeonnier de participer au contrat de ville aux côtés de l'État, de Provence-Alpes Agglomération, de la ville de Digne et de l'ensemble des signataires du contrat. Il agit comme un intermédiaire entre les habitants et les institutions, rappelle René Gubert, membre du Conseil citoyen politique de la ville de Digne.
Le mercredi, nous aurons l'ADIT, Association Dinoise d'insertion par le travail. Nous aurons le CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, l'ISAT Paul Martin, la Maison de la Santé qui fera des dépistages de diabète, obésité, le Conservatoire qui présentera l'orchestre de quartier, le CPIE, c'est-à-dire le Centre permanent d'initiative pour l'environnement qui fera des ateliers et des jeux pour le jeune public, l'ISAT Paul Martin avec des jeux de plateau sur la santé mentale. L'atelier Santé-Ville du CCAS de Digne-les-Bains fera une enquête sur les besoins des habitants au niveau de la santé, Cité Lab. Le jeudi, nous aurons le Centre médico-social pour santé sexuelle, dépistage VIH, hépatite, le CARUD, stand infodrogue, l'UDAF, l'Union départementale des affaires familiales, les petits débrouillards qui feront un atelier interactif pour les enfants et la plateforme d'initiative. Le vendredi, il y aura le CDAD 04, c'est le Conseil départemental d'accès aux droits 04, formation juridique pour tous. Et à 17h, il y aura une discussion autour de l'aide juridictionnelle. Et samedi matin, de 10 à 12, il y aura l'UDAF, une heure un enfant.
Des propos recueillis par Michel Bonnefoy. Ces journées auront lieu dans les rues Colonel Payan et Traverse de la Barlette, mais aussi à la médiathèque. Dans l'actualité également, on prend la direction de la cité Vauban où plusieurs façades et murs de la ville sont décorés par des artistes de renommée internationale. Le festival de street art de Briançon a été lancé au début du mois en partenariat avec l'association Éternelle Crapule. Il s'étalera en fait sur 3 ans, 3 années durant lesquelles une vingtaine de façades de la cité Vauban seront magnifiées par des artistes du monde entier. 160 candidatures ont été reçues pour cette édition, 7 ont été sélectionnées pour cette session 2021, dont néant un artiste belge, Christophe Laurenceau.
Perché à plus de 13 mètres de haut dans une petite nacelle élévatrice, l'artiste Néan est à la fois au cœur des éléments vus sur les montagnes et les fortifications Vauban, mais aussi un peu isolé en hauteur pour peut-être mieux se concentrer. Face à lui, un immeuble au croc sur l'avenue René Froger, une sorte de toile géante avec des dimensions qui donnent le tournis, 13 mètres par 12, c'est là qu'il va exercer son art avec passion pendant une dizaine de jours.
Il y a une succession d'étapes que j'essaye de respecter. Après, c'est très différent d'un artiste à l'autre. Dans mon cas, ça passe notamment par la pose d'une esquisse assez rigoureuse avec un quadrillage. Puis une fois que l'esquisse est posée, il y a une partie qui n'est pas très passionnante, mais qui consiste à mettre une première couche de peinture partout pour un peu poser les bases, les fondations. Une fois que ces étapes sont bien réalisées, eh bien, j'ai la garantie de pouvoir prendre mon temps sur les détails.
L'artiste travaille ses projets en amont grâce à la photographie et l'art numérique, mais il puise aussi ses inspirations dans la peinture traditionnelle.
Voilà, ça c'est le résultat auquel on va essayer de coller un maximum. C'est un visuel que j'ai réalisé sur base photographique en mélangeant différentes photos. Un peu comme on pourrait faire un collage.
Autodidacte, Néan n'en est pas à son premier coup d'essai. Un artiste qui a tout juste 30 ans pose sur la société un regard éclairé avec des œuvres qui se penchent notamment sur le temps qui passe et sur le rêve, comme ici à Briançon.
L'idée, c'est de représenter une fresque avec un message assez onirique, poétique, proposer au public, inviter le public au voyage avec une image assez lumineuse, pleine de couleurs, amener quelque chose d'un peu apaisant, vu la situation de ces dernières années.
Connu internationalement, il a déjà graffé dans une dizaine de pays, en Belgique bien sûr, mais aussi en Allemagne, en Ukraine, aux États-Unis ou encore en France, pour proposer des représentations à la fois hyper réalistes, mais toujours pleines de douceur.
Je prends plus de plaisir à me déplacer dans des villes où on n'attend pas forcément le street art, parce qu'il y a un côté rafraîchissant, et c'est aussi des lieux auxquels on ne penserait pas forcément. Par exemple, il y a quelques semaines, réalisé une fresque dans une cité de logements sociaux en Allemagne. Ça a nettement plus touché le public que si on l'avait fait dans un lieu branché ou sur un grand axe où on s'adresse en fait à un public qui est déjà converti, entre guillemets.
Un artiste que l'on pourrait revoir sur le territoire alpin.
Merci Christophe. Et les artistes du Street Art Festival seront visibles à Briançon jusqu'à la fin du mois de septembre. Alex Hugo reprend du service cette semaine. La série phare de France 3, tournée dans les Hautes-Alpes, a rassemblé la saison dernière plus de 6 millions de téléspectateurs. L'épisode inédit diffusé demain soir a été réalisé en août et septembre 2020 sur 14 communes du Briançonnais. 126 figurants ont fait partie du casting. Du théâtre, d'improvisation ou encore des musiques électroniques, il y en aura pour tous les goûts. Troisième édition de Culture en stock dans les Hautes-Alpes, un événement du département qui s'adresse aux jeunes. En collaboration avec les collèges, trois mercredis après-midi permettront à ces jeunes de découvrir de nouvelles pratiques grâce à des ateliers participatifs gratuits animés par de nombreuses associations locales. Écoutez Marie-Vonne Grenier, vice-présidente en charge de l'éducation des collèges et de la jeunesse.
Dans cette politique, nous travaillons bien sûr en transversalité avec les différents services du département, notamment les solidarités, mais nous travaillons également avec les autres collectivités qui ont en charge aussi cette politique jeunesse. Je pense à la région, je pense aux différentes communes, et je pense également à une action que nous menons actuellement avec l'État et avec la CAF sur des appels à projets que les jeunes font généralement en groupe, parce que ce n'est pas des actions individuelles, et qu'ils nous présentent, on en a une prochainement, le 29 septembre. Donc, une politique jeunesse très diversifiée, ça rejoint la culture, ça rejoint le sport, ça rejoint les solidarités, et c'est une politique aussi qui n'est pas toujours très facile à établir, dans la mesure où il est quelquefois difficile de savoir exactement quels sont les souhaits de nos jeunes.
Rendez-vous donc ce mercredi à la salle des fêtes du Quéron à Guillestre, puis le 13 octobre au lycée Honoré Romane d'Embrun, et enfin le 20 octobre sur le parvis du conseil départemental entre 13h30 et 17h.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.